Les podcasts de l'Institut de France. En habit vert, rencontre avec une académicienne.
Aujourd'hui, c'est une pionnière que nous recevons dans En habit vert, un pilier de l'astrophysique française, Françoise Combes. Depuis les années 70, Françoise Combes scrute les mystères de l'univers et est derrière des découvertes majeures. Dans cet épisode, elle va nous aider à mieux comprendre la matière noire, les galaxies voisines de notre Voie lactée ou encore les scénarios possibles de la fin de l'univers. Des notions fascinantes qu'elle arrive à rendre accessibles. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle a été la toute première femme astrophysicienne élue à l'Académie des sciences en 2004. Elle est devenue en 2025 présidente de cette académie et elle compte bien poursuivre toute la dynamique de l'institution. Aujourd'hui, une école à Montpellier porte même son nom. Entre deux conférences, la scientifique trouve même le temps de pratiquer la peinture à l'huile, un parcours impressionnant qu'elle a accepté de nous raconter un matin d'hiver au studio de l'Institut. Bonjour Françoise Combes.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans le studio de l'Institut de France pour nous raconter quelques moments de votre parcours. Vous êtes née à Montpellier et petite, vous avez eu la chance de parcourir la planète. Votre père était militaire et vous avez eu la chance d'aller à Tahiti, en Nouvelle-Calédonie, en Algérie. Comment ces lieux vous ont forgé? Est-ce qu'ils ont compté pour vous?
Ah oui, bien sûr. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, j'y suis retournée récemment, 40 ans après. C'était formidable. Et j'ai retrouvé tous les souvenirs de mon enfance. En fait, on allait à la plage, à la baie des citrons, à Lanzvata, tout ça. J'ai retrouvé presque tel que, en fait, et c'était très émouvant.
Enfant, vous n'étiez pas particulièrement intéressé par le cosmos. Vous étiez passionné de physique, surtout. Et puis, vous avez intégré l'école normale supérieure. C'est là-bas que vous avez fait le choix de l'astrophysique. Est-ce qu'à cette époque, cette discipline a attiré beaucoup de monde? On est dans les années 70, c'est ça?
Oui. Déjà, à cette époque, ça a attiré beaucoup de monde, oui. L'astrophysique a toujours été, parmi les sujets de physique, celui qui attire, qui fait rêver un petit peu. Et comment est-ce possible qu'on puisse faire de la recherche dans ce domaine? Moi aussi, je ne le savais pas avant. Donc, j'ai essayé, lorsque je suis sortie de l'école, trouver des sujets. En fait, j'ai fait un petit peu la visite de tout le laboratoire de physique, etc. Il y en avait qui étaient très intéressants. Mais alors, l'astrophysique, quand on m'a présenté des sujets de cosmologie qui faisaient un petit peu état du Big Bang, est-ce qu'on pouvait trouver d'autres modèles de Big Bang avec des modèles de cosmologie de symétrique matière-antimatière, etc. Ça m'a vraiment séduit. J'ai commencé dans cette voie et finalement, je suis restée.
Toute votre carrière. Vous l'avez dit, cette spécialisation fait un peu rêver tout le monde parce qu'elle renvoie au mystère, aux origines et au Big Bang. Mais si elle fait rêver beaucoup de monde, elle reste assez floue pour le commun des mortels. Alors j'imagine que les astrophysiciens ne travaillent pas sur les mêmes sujets. Vous, quel a été le fil conducteur de votre parcours, de votre carrière?
Alors au départ, je suis partie en théorie. En fait, la théorie, ça me semblait être... J'étais plutôt matheuse, théorique au début. Et puis, peu à peu, en fait, on a fait un modèle qui ne marchait pas. C'était très passionnant, mais ça ne marchait pas. Donc, on a montré que ça ne marchait pas. Et puis, il y avait beaucoup de rencontres dans une carrière. C'est ça qui compte, en fait, la rencontre avec des personnalités. J'ai rencontré Pierre Encrenat, qui montait un laboratoire à l'École normale supérieure sur l'observation en millimétrique, en ondes millimétriques. En fait, c'était complètement différent de ce que j'avais fait l'année d'avant sur la cosmologie théorique. Et donc, là, j'ai été emportée, en fait, dans les observations de galaxies. Et avec des nouveaux télescopes qui n'existaient pas encore en Europe, on est allé visiter aux États-Unis les premiers télescopes de cette longueur d'onde millimétrique. On a découvert des tas de choses, des molécules, parce qu'on ne s'imaginait pas que dans le milieu interstellaire, entre les étoiles, il y a beaucoup de gaz qui est très très vide en fait. C'est quelques particules par centimètre cube, alors que dans l'air qui nous entoure, c'est 10 puissance 23 particules par centimètre cube. Donc on a du vide, on ne pensait pas qu'il y aurait de la chimie qui pourrait se produire. Les molécules se rencontrent et on fait des tas de molécules organiques, je ne sais pas, de l'acétone, de l'alcool éthylique, etc. Et donc ça, on était en train de découvrir avec ces télescopes toutes ces molécules dans l'espace interstellaire. Donc on a fait des découvertes et ça, c'était passionnant. Et finalement, donc, j'ai fait aussi de l'observation, de la théorie, un petit peu des deux.
Et vous avez parlé donc des galaxies. Vous êtes une spécialiste de comment les galaxies se forment, évoluent. Il y a 100 ans, on pensait qu'il n'y avait qu'une seule galaxie, la nôtre. Aujourd'hui, on sait qu'il y en a plus de 2000 milliards. Ça, c'est encore une révolution copernicienne. On croyait que la Terre était le centre de l'univers. Et puis maintenant, on sait que ni la Terre, ni le Soleil, ni même notre Voie lactée ne sont au centre de l'univers.
Oui, vous avez tout à fait raison. Enfin, on se croyait toujours au centre de l'univers à chaque étape, malgré Copernic. Même il y avait Herschel qui avait fait la carte de la Voie lactée, la bande blanche qu'on voit dans le ciel et qui on pense être tout l'univers, en fait, à l'époque, en 1920. Et donc, il regarde et puis il voit qu'autour du Soleil, il y a plein d'étoiles, mais au bout d'un certain temps, on les voit beaucoup moins, elles sont plus faibles. Et donc, il voit qu'il y a un petit cercle autour, on est au centre. En fait, il ne s'aperçoit pas quand il y a beaucoup de poussière aussi dans le milieu interstellaire. De la poussière, c'est comme de la suie, en fait, avec des particules de carbone, etc. Et donc, ça éteint les étoiles qui sont très loin. Donc, au bout d'un moment, on ne voyait plus rien. C'est comme quand on se balade la nuit avec une torche, et puis on voit qu'il y a un cercle lumineux autour de nous. On ne voit pas autour de nous, on est au centre. Et là, c'est un peu ce qu'on avait. Donc, le Soleil au centre, il avait trouvé une Voie lactée qui était toute petite, puisque la poussière éteignait tout ce qu'il possède. Et ensuite, on a compris que le Soleil n'était pas au centre. En fait, il est au bord de la Voie lactée était beaucoup plus grande. Et donc, il y a eu un débat en 1920 en disant, tiens, est-ce qu'il existe d'autres univers que le nôtre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est au loin? Et ça, il a fallu du temps pour le comprendre, parce qu'en fait, tout sur le ciel, tout paraît à la même distance. Il a fallu un indicateur de distance, et ça, c'est une femme, astronome, qui l'a découvert, Henrietta Leavitt, et qui aurait dû avoir le prix Nobel, d'ailleurs, pour cela, mais elle a découvert des étoiles variables, des céphéides, qui ont une période qui est proportionnelle à leur luminosité intrinsèque, ça nous donne, avec la luminosité apparente, la distance. Et c'est ainsi que Hubble a pu, disons, finir le débat qu'il y a eu en 1920 en disant, dans la nébuleuse Andromède, qu'on croyait dans la Voie lactée, hein, un nuage de la Voie lactée, dans cette nébuleuse, finalement, il y a des céphéides et c'est à 2 millions d'années-lumière de nous, donc c'est bien en dehors de la Voie lactée. Et peu à peu, on a découvert des tas de galaxies en dehors.
Il y en a énormément. Donc, la Voie lactée qui est notre galaxie, vous avez plutôt travaillé, pas sur notre galaxie, mais sur d'autres galaxies qui sont plus ou moins éloignées. On peut peut-être rappeler ce que c'est. C'est une grosse structure composée de planètes, d'étoiles. Comment elles se forment, les galaxies? Comment elles évoluent?
Ah, ça, c'est une question dont on te pose encore la question, parce qu'en fait, on a quelques petites idées. Mais récemment, on a lancé un télescope, le James Webb Télescope. C'était à Noël 2021, en fait, et 2022, il a commencé à être opérationnel, donc ça fait plus de 2 ans maintenant. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de galaxies très massives, très tôt dans l'univers. En fait, on pensait qu'il y a de toutes petites galaxies vraiment naines qui se forment, puis peu à peu, elles fusionnent, elles font des grosses aujourd'hui. On a trouvé qu'il y avait des tas de grosses au départ, près du Big Bang. Donc ça, c'est encore quelque chose qui remet en question notre formation des galaxies. On pensait que ça se formait bottom-up, comme on dit, c'est-à-dire on fait des tout petits objets. Au départ, ce qui se forme, c'est quelque chose qui ressemble à un amas globulaire, c'est-à-dire 100 000 étoiles, alors que dans une galaxie, il y a 300 milliards d'étoiles. Donc on pense à des petites briques de base qui fusionnent et donnent des grosses, comme la Voie lactée aujourd'hui. En fait, il y a des grosses dès le départ. Donc ça remet un peu en cause notre formation. La galaxie se forme tout le temps. En fait, elle commence déjà 200 millions d'années après le Big Bang, donc très, 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 très court. Et puis, ça va agglomérer du gaz, de la matière noire, la matière invisible, qui est très importante. Et puis, on va agglomérer toute cette masse. Et en fait, on forme des filaments. Toute la matière dans l'univers, dans les filaments, comme une toile d'araignée cosmique, une toile, on appelle ça Cosmic Web, une toile d'araignée. Et donc, les galaxies sont alimentées par cette toile, et sans arrêt. C'est-à-dire qu'au départ, on forme quelques étoiles, il y a du gaz qui tombe, on forme des étoiles, ça forme un disque, puis ensuite on va former un bulbe lorsqu'il y a des petits compagnons qui vont tomber. Et puis peu à peu, bon, évidemment, il y a quelques fusions de galaxies, peut-être pour la Voie lactée, il y en a une dizaine durant sa vie, mais elle a toujours vécu, elle continue à vivre parce qu'elle a beaucoup de gaz qui s'accrète par les filaments encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'on forme encore quelques étoiles, on forme 3-4 étoiles par an dans la Voie lactée, donc c'est pas une flambée de formation d'étoiles, mais quand même on en forme. Elle continue, alors que finalement, si elle se formait à un moment donné avec tout le gaz qu'elle avait au départ, eh bien, on devrait avoir une diminution de la formation d'étoiles régulière jusqu'à zéro, et c'est pas ce qu'on voit du tout. On voit une formation d'étoiles constante, continue. Fonction du temps.
Vous avez dit que ces galaxies sont composées de matière noire, elles sont composées à 90% de matière noire, qui donc constituent leur masse, leur volume. Aujourd'hui, cette matière noire, elle reste assez énigmatique pour les astrophysiciens.
Oui. Ah, tout à fait, donc c'est une matière que l'on voit pas. Donc on l'appelle noire, mais en fait, elle est plutôt transparente parce qu'elle n'interagit pas avec la lumière. Donc elle n'absorbe rien, elle n'émet rien.
On ne peut pas la voir à l'œil nu.
Il y en a peut-être dans la salle, pas tout. Il y a peut-être quelques particules,
peut-être.
Mais on ne les voit pas. Donc c'est transparent, une matière transparente. Alors comment on la voit? Eh bien, on regarde la cinématique. on regarde les étoiles qui tournent autour du centre dans la Voie lactée, par exemple. Dans toutes les galaxies spirales à disques, la matière tourne autour du centre, le gaz, les étoiles. On mesure par effet Doppler leur vitesse. Et donc, on peut savoir... alors, on a établi que la vitesse était constante en fonction du rayon. Alors que comme s'il y avait une masse finie, comme dans le système solaire, par exemple, on a les lois de Kepler, on a une vitesse qui décroît en fonction du rayon régulièrement. Mais ça, on ne le voit pas dans les galaxies. La vitesse est constante en fonction du rayon. On est obligé de dire qu'il y a beaucoup de masse qui retient toute la matière, parce que sinon, la vitesse ferait une force centrifuge qui éloignerait la matière. Donc, on arrive à détecter qu'il existe cette masse invisible pour tenir les galaxies ensemble, mais on ne sait pas de quoi elle est faite.
C'est ça, sa fonction, c'est de maintenir la cohésion des étoiles.
Voilà, c'est ça, c'est la gravité, en quelque sorte, la gravité qui attire. Alors ça se passe aussi dans les amas de galaxies, puisque on a par exemple l'amas de la Vierge, l'amas de Coma, et toutes les galaxies ont des vitesses désordonnées, c'est pas de la rotation cette fois, c'est des vitesses browniennes en quelque sorte, mais c'est 1000 km par seconde en général, et donc pour retenir tout ça, il faut une grosse masse, et il y a énormément de masse invisible aussi.
Cette matière noire. Pour qu'on se représente bien l'étendue de cette matière noire, nous, par exemple, les êtres humains, notre planète, les étoiles, enfin tout ce qui nous paraît visible, on parle de matière ordinaire. Mmh. Et cette matière ordinaire, elle constitue seulement 5% de l'univers. C'est rien du tout. Tout le reste, c'est cette matière noire qui reste encore
alors,
très
pas
mystérieuse.
Tout à fait. On a plusieurs composants, en fait. Ouais. On a aussi de l'énergie noire. Donc alors, on a 5% de matière ordinaire et on a 25% de matière exotique noire. Invisible. Et puis 70%, c'est de l'énergie noire. Donc cette énergie noire, elle est plutôt distribuée de façon constante dans l'univers. Et ça n'intervient pas trop dans la Voie lactée. La Voie lactée, on n'a que 5% et 25%, donc 30% en total, de matière. Alors, au centre de la Voie lactée, il n'y en a pas beaucoup. Parce que la matière ordinaire se concentre énormément. Et on n'a pas vraiment beaucoup besoin de matière invisible. Par contre, à partir du rayon du Soleil et au-delà, alors là, la matière invisible commence à dominer, et c'est là qu'on trouve qu'on est dominé par la matière noire.
En 2023, on a lancé un nouveau satellite surpuissant qui est capable de fournir des détails inédits sur l'univers. Ce satellite, c'est le télescope Euclide. Est-ce qu'il a déjà permis de révéler des choses qu'on ne savait pas sur l'univers ?
Alors Euclide, en effet, c'est un télescope européen. Alors pour une fois, on peut dire que l'Agence spatiale européenne a fait quelque chose de formidable. Et en effet, c'est un télescope un peu comme le Hubble Space Telescope, même un peu plus petit, mais qui a un champ très très grand. Donc il a la même résolution spatiale parce qu'on est hors de l'atmosphère, donc on n'a pas le brouillage de la turbulence de l'atmosphère. Donc on a un grain très fin, on a une résolution qui est celle du Hubble Space Telescope. Mais alors le Hubble n'avait vu que des champs tout petits. Il n'avait regardé qu'une très faible partie du ciel, c'était profond. Et là, on va regarder tout le ciel. C'est vraiment un grand champ. Donc on va pouvoir faire un survey du ciel. Donc on pourra avoir, à la fin des 5 ans, parce qu'en fait, il y a un relevé de 5 ans. Au bout de ces 5 ans, on aura 12 milliards d'objets, de galaxies, etc. Avec aussi leur vitesse, c'est-à-dire leur distance dans l'univers, la profondeur. Et donc, c'est ça qui va nous créer beaucoup de tests, de diagnostics pour savoir de quoi est fait cette énergie noire qu'on ne connaît pas du tout. C'est-à-dire, il va nous dire comment l'univers est rentré en expansion, puis ensuite en accélération de l'expansion. Alors, tout ça, on va le savoir au bout de 5 ans. Alors, pour l'instant, on ne le sait pas encore.
Non, mais c'est très prometteur.
Voilà.
Parmi vos plus grands accomplissements, Françoise Combes, vous avez été la première à découvrir qu'il y avait des molécules dans la galaxie d'Andromède. C'est une des galaxies les plus proches de nous.
La galaxie spirale la plus proche, parce qu'en fait, il y en a des petites galaxies naines, comme les nuages Magellan, le grand nuage, le petit nuage, qui sont en train d'interagir avec nous. Il y a la naine du Sagittaire aussi. On est entouré d'une vingtaine de satellites, mais petits. Par contre, la galaxie d'Andromède, c'est une galaxie plus grosse que la nôtre, et la première spirale la plus proche.
Et alors, qu'est-ce que la présence de molécules signifie ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, on ne pensait pas qu'on puisse détecter des molécules très loin. En fait, déjà, on sortait de la période où on avait découvert ces molécules dans la Voie lactée. C'était là où on a vu chercher les molécules, on appelait ça la chasse aux molécules. Un peu comme les chasses aux papillons, là, on découvrait de nouvelles molécules, on a découvert 120 différentes, sans compter les isotopes. Et puis, dans les galaxies extérieures, c'était encore un défi. Et en fait, ce qui était très intéressant, c'est qu'on était sur le télescope de Kitt Peak, en Arizona, Il n'y en avait pas encore en Europe de ce télescope millimétrique. Et les Américains avaient cherché dans la galaxie Andromède, au centre, parce qu'en fait, c'est là au centre que se concentre toute la matière. Ils avaient cherché au centre la molécule CO. Alors, la molécule CO, c'était la monoxyde de carbone. Et on ne regarde pas la molécule H2, qui est la plus abondante. L'hydrogène est l'élément le plus abondant de l'univers. Donc, lorsqu'on a des molécules, c'est la molécule HH, H2. Et cette molécule, elle est tellement symétrique qu'elle ne rayonne pas, hélas. Donc, on est obligé d'avoir un traceur. Le traceur, la molécule la plus abondante après H2, c'est CO, le monoxyde de carbone. Donc, on a regardé CO. Les Américains ont regardé la fréquence de CO. Ils n'ont rien vu du tout avec une bonne limite supérieure. Il n'y a rien. On ne va pas pouvoir détecter les molécules dans les galaxies extérieures. Mais... finalement, on s'est dit, c'est pas vrai, c'est pas possible. Il y a bien des bras spiraux. On voit de la poussière. On voit des traînées de poussière qui absorbent les étoiles. Ça doit être là-dedans que doit avoir le gaz moléculaire. Donc, on a regardé, pas au centre, mais au bord, là où il y a les bras spiraux. On a détecté avec leur même télescope. Donc là, ça a été très, très jubilatoire.
J'imagine. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que ça peut révéler la présence de vie extraterrestre, par exemple?
En fait, la formation d'étoiles. Nous, ce qui nous intéressait, alors évidemment, après, on peut penser à la vie extraterrestre, mais on n'était pas encore là. Nous, ce qu'on pense, c'est que dès que l'hydrogène, qui est le gaz le plus abondant, hydrogène, alors ça peut être atomique, et dès que le gaz devient dense, il devient moléculaire, on change de phase, atomique, moléculaire, et c'est dans les nuages moléculaires que se forment les nouvelles étoiles. Donc on cherchait à savoir comment se forment les étoiles dans les galaxies, en fait, comment on peut concentrer le gaz. Et en fait, on voit qu'on concentre le gaz dans les bras spiraux, justement, donc c'est ça qui nous intéressait. Et donc on a vu que les gaz moléculaires, ils étaient très très fragmentés, ils se faisaient des petits fragments, et ces fragments, en fait, sont un petit peu comme des structures self-similaires, comme des poupées russes emboîtées. Donc on a des gros nuages moléculaires, puis ensuite des plus petits à l'intérieur, puis encore plus petits, ainsi de suite, ainsi de suite. Et lorsqu'il est très très petit, il est encore plus dense, et c'est là que tout d'un coup, on va effondrer le gaz et former une étoile.
Et alors sur la présence de vie extraterrestre, vous êtes convaincu qu'elle existe et que...
Alors il est vrai que on est convaincu par des arguments statistiques. On l'a pas encore vu, bien entendu, mais il est vrai qu'on a énormément de planètes aujourd'hui. On a détecté des planètes extrasolaires. Autour de chaque étoile, il y a plusieurs planètes. Donc si on a 300 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, on aura beaucoup plus de planètes encore. Et on a aussi des planètes habitables, c'est-à-dire qui sont à une distance de leur étoile qui n'est pas trop petite parce qu'à ce moment-là, l'eau est évaporée, etc. Ou pas trop loin parce que l'eau est en glace, c'est trop froid. Il y a une distance où l'eau est liquide, c'est ce qu'on a sur Terre. Et on sait qu'il faut qu'il y ait de l'eau liquide pour que les molécules puissent bien se former, puis former peut-être des protéines, etc. Donc il faut qu'il y ait de l'eau liquide. Et donc ça, on pense qu'il y a des milliards de planètes qui sont... dans ce sens-là, habitable avec de l'eau liquide, dans la Voie lactée. Mais il y en a aussi 2000 milliards de galaxies.
Dans les autres
déjà.
Galaxies
Donc,
autour de nous.
Je pense que c'est sûr. On ne voit pas pourquoi, encore une fois, on aurait le principe de Copernic. On est le seul dans l'univers, on est au centre de tout. Là, c'est sûr que, de façon probabilistique, on doit avoir une vie. Alors, c'est peut-être pas la même exactement, mais quand on regarde bien les molécules qui se forment, on a des molécules organiques. Et on a réussi à aller jusqu'à des protéines, pratiquement des premières protéines, la glycine par exemple, qu'on a recherchée, trouvée dans les météorites, etc. Ça se forme dans le milieu interstellaire, même entre les étoiles. Donc on voit que n'importe quelle planète peut absorber toutes ces molécules, et donc ça peut semer la vie sur les planètes. Et ça, quand on regarde très très loin dans l'univers, on remonte le temps. Parce que quand on regarde très loin, comme la lumière a une vitesse qui n'est que de 300 000 km par seconde, la lumière, lorsqu'on regarde une galaxie lointaine, elle va mettre des milliards d'années à nous venir. Donc on la voit telle qu'elle était quand elle était jeune. Donc c'est comme ça qu'on remonte le temps. On remonte le temps jusqu'au Big Bang, jusqu'au début de l'univers. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? On commence à voir des molécules dans les galaxies, les premières galaxies qui se forment. Donc très près du Big Bang, eh bien, on a les mêmes molécules qu'aujourd'hui. C'est-à-dire toutes ces molécules organiques avec de la molécule de monoxyde de carbone, mais aussi de l'acide acétique, de l'acétone, etc. Toutes ces molécules organiques, elles sont là jusqu'au Big Bang. C'est un peu la même chimie qu'on a partout. Donc on a l'impression que s'il y a des êtres qui vont se former, on ne sait pas, des bactéries, etc., ce sera à peu près la même chimie du carbone et les molécules organiques que l'on connaît.
Alors là, on vient de parler du Big Bang, on va se projeter encore très très loin. Est-ce qu'on sait si un jour l'univers finira par par s'éteindre, par mourir ?
Alors là, on connaît, enfin on va extrapoler un petit peu, hein. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est grâce à la découverte en 1998, donc il n'y a pas longtemps, c'est au début de notre millénaire, si on peut dire, on a découvert que l'expansion de l'univers, qu'on avait découvert en 1929, on pensait que, comme on n'avait que la matière à l'époque, que la matière ne fait qu'attirer par sa gravité, on pensait que l'expansion qui avait été donnée au Big Bang allait se décélérer. C'était toujours une expansion, mais elle ralentissait. À cause de simplement, quand on lance une pomme, elle va retomber, donc on a un effet attractif, et donc l'univers ne pouvait que décélérer en fait dans son expansion. Et en fait, on s'est aperçu que l'expansion était accélérée. C'est là qu'on a été obligé d'inventer cette énergie sombre, qui fait 70% quand même du contenu de l'univers, et qui a un effet répulsif, qui repousse, donc c'est le contraire de la gravité. Grâce à l'observation de cette énergie sombre, on sait maintenant que l'expansion est très très accélérée et que finalement l'univers va se, disons, diffuser, enfin rendre diluer. Beaucoup plus diffus, diluer, va se diluer, diluer, et qu'on est plutôt dans ce, on n'est pas du tout dans le Big Crunch, le contraire, c'est-à-dire que l'univers aurait trop de masse et pourrait se recollapser sur lui-même et peut-être redevenir Big Bang en quelque sorte. Là, plutôt, il va jamais mourir en fait, il va juste se diluer, se diluer. Alors, on sait que les structures qui sont liées gravitationnellement, elles vont le rester. Par exemple, les galaxies qui se forment, ou même les amas de galaxies, que se passe-t-il ? En fait, on a d'abord un univers homogène, et puis on sait qu'on a une densité critique pour qu'il se recondense. Alors, il y a des fluctuations de densité, il y a des régions plus denses que les autres, et ces régions plus denses, elles atteignent la densité critique, et elles tombent sur elles-mêmes, elles font un petit Big Crunch, si on veut dire, et donc elles vont être liées gravitationnellement, et à ce moment-là, elles ne sont plus en expansion. C'est-à-dire que dans notre Voie lactée, les étoiles ne s'éloignent pas les unes des autres, du tout. De même qu'Andromède, parce qu'on est dans un groupe local de galaxies, donc il n'y a pas d'expansion à l'intérieur du groupe local, il est lié. Donc notre groupe local va rester lié gravitationnellement, mais tout le reste qui est sujet à l'expansion va s'éloigner. Donc on verra de moins en moins de galaxies, en quelque sorte, mais on va quand même rester à l'intérieur de notre galaxie et on va mourir doucement.
Là, on parle d'une projection à plusieurs milliards d'années, plusieurs centaines de milliards d'années. Est-ce qu'on a un ordre d'idée ?
Ah ben là, c'est infini. Hein. On n'a pas de...
c'est vertigineux. On a parlé de cette galaxie Andromède. Quels ont étaient les autres grands accomplissements de votre vie, de votre parcours professionnel, Françoise Comte ?
Oui, on a trouvé, donc, au début, c'était la découverte des molécules. On a découvert des tas de molécules, ça, c'était passionnant. Et puis ensuite, j'étais dans le même temps, parce qu'on faisait des observations aux États-Unis. Il n'y avait pas d'Internet à l'époque, donc on y allait à chaque fois, donc il fallait observer. On avait des paquets de cartes, ensuite, quand on revenait avec des bandes magnétiques pour aller réduire les données, et on faisait des programmes uniquement avec des cartes magnétiques. C'est faux, ça. Quand j'y pense, c'est quand même assez fantastique. On a fait tellement de progrès aujourd'hui que maintenant, on appuie sur un bouton et tout est réduit. Donc, on avait beaucoup d'observations, mais entre les observations, on pouvait faire quand même des calculs théoriques. Et donc, je m'intéressais aux galaxies. À l'époque, on ne savait pas comment était dû, à quoi étaient dues les spirales, la structure spirale des galaxies. Et il y avait des calculs un petit peu de perturbation qui disaient qu'il y a peut-être une onde de densité où la spirale a une vitesse angulaire constante d'un centre-bord. Parce qu'en fait, si elle est matérielle, cette structure spirale, elle va s'enrouler énormément dans la galaxie parce que la vitesse des étoiles au centre est très rapide. Elles font un tour en 10 millions d'années, le Soleil en 200 millions d'années, ensuite il faut un milliard d'années pour faire un tour. Donc on voit bien que le centre s'enroule et puis pas le bord. Donc on détruit la structure spirale. Donc il faut des ondes de densité. Donc là, on avait ce calcul analytique. On s'était dit, c'est bizarre, on a beaucoup de barres dans les galaxies. C'est pas prévu par la théorie analytique, c'est une forte perturbation. On va faire des simulations numériques. Et en effet, quand on fait des simulations numériques, on a des barres tout le temps, contrairement au calcul de perturbation. Et là, on est tombé sur un problème, et tout le monde qui commençait à faire des simulations, on s'est dit, mais c'est bizarre, on a des barres tout le temps, on n'a pas tout le temps des barres dans l'observation. On voulait se débarrasser des barres. On s'était dit, eh bien, peut-être que les simulations, elles sont toutes faites à deux dimensions, parce que les ordinateurs étant si peu puissants à l'époque, il fallait le faire à deux dimensions, à trois dimensions, c'était beaucoup plus cher. Et peut-être c'est parce qu'on les a fait à deux dimensions qu'elles sont barrées, en fait. Donc on a eu l'idée de les faire à 3D. Toujours, c'était moins de résolution, mais pour stabiliser les barres, on s'est dit, on va le faire à 3D. Et puis finalement, on a découvert quelque chose de façon tout à fait inattendue, c'est-à-dire qu'il y avait une résonance entre les étoiles qui tournait dans la galaxie, et puis la barre. La barre avait une certaine fréquence qui n'est pas la même que celle des étoiles. Et puis, à un rayon, elle résonne. Un petit peu lorsque vous avez un pont qui résonne avec un balancement, et vous pouvez casser le pont un peu si vous résonnez trop fort. Et là, les étoiles, elles sont élevées dans le plan, au-dessus du plan. Et on a trouvé des structures en forme de cacahuètes. Et puis peu à peu, on a vu que c'était comme ça que pouvaient se former des bulles de galaxies, en fait, de façon séculaire. On n'avait pas besoin de fusionner des petits. Au début, on pensait que tous les bulbes étaient formés par des interactions de galaxies qui faisaient des collisions, faisaient un bulbe. Alors qu'au départ, on a un disque seulement. Et tout d'un coup, on s'est vu que la barre pouvait former des bulbes. Et on a lancé ce processus, et c'est quelque chose que tout le monde a suivi. Donc ça, c'était intéressant.
Et ce passage de la 2D à la 3D, il est arrivé quand ? C'était dans les années 90 ?
C'était les années 80.
Vous avez été élu à l'Académie des sciences quelques années plus tard. Ça fait à peu près 20 ans maintenant que,
oui.
que vous avez été élu. Aujourd'hui, il y a à peu près 25% de femmes parmi les chercheurs en astrophysique. Pas à l'Académie des sciences, hein. Là je parle de façon générale. Le pourcentage, il n'a pas beaucoup évolué depuis que vous avez commencé votre carrière. Dans les années 70, on est à peu près à ce même pourcentage.
Oui, même un petit peu moins. C'est ça qui est un petit peu désolant, c'est qu'avant, quand je suis rentrée, il y avait plutôt 30%. Et pourquoi ? Parce qu'on a obtenu un poste permanent plus tôt. Après la thèse, il y avait peut-être un post-doc de 2 ans, 1 an, 2 ans, et puis les gens arrivaient à trouver un poste permanent au bout de 2 ans. Et donc ça a encouragé un peu les femmes à rester ici. Aujourd'hui, maintenant, il y a encore plus de compétition, beaucoup plus de personnes qui demandent un poste permanent, il y en a moins de postes permanents. Et puis, donc il faut attendre au moins en moyenne 6 ans après la thèse, et même parfois plus. Et donc je pense que les femmes qui veulent s'installer, ne pas avoir à voyager tout le temps pour faire un post-doc, abandonnent plus vite que les hommes. Donc on en a un petit peu moins, donc 25% qu'on avait dit, et c'est bien désolant à cause de ça. Donc on a essayé de demander au CNRS de corriger un peu ce problème, c'est-à-dire d'essayer de favoriser les femmes pour qu'elles reviennent de post-doc. Enfin bon, c'est en cours.
C'est encore trop tôt. Quelles sont les qualités d'une bonne ou d'un bon astrophysicien ?
Un bon astrophysicien, c'est quelqu'un de curieux et puis qui voudrait aller au fond des choses. Il y a des problèmes et puis il ne faut pas rester à la surface. Il faut essayer de creuser pourquoi il y a ce problème et essayer de regarder dans tous les sens. Et puis persévérer, en fait. Et là, je pense qu'il y a ce côté des gens qui creusent, qui persévèrent. C'est pas seulement, il faut pas seulement être très bon physicien. Et puis, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent très vite dès qu'il y a un problème. Bon, ils regardent un tout petit peu et puis ils passent à autre chose. Donc, il faut creuser et aller au fond des choses. Et là, je pense que c'est un petit peu dans toutes les matières, d'ailleurs. Quand on veut faire de la recherche, il faut creuser, faire en profondeur.
En France, on a des bons astrophysiciens. Comment on se situe par rapport, je sais pas, aux États-Unis, par exemple?
Alors, l'astrophysique est un point fort de la France, en fait, hein, en physique. Et puis, on bénéficie aussi de télescopes qui sont mondiaux, au début européens. Par exemple, en 1960, chaque pays avait un petit télescope chez lui. On avait l'OHP, c'est-à-dire Haute-Provence, Observatoire d'Haute-Provence. On avait aussi, dans les Pyrénées, un télescope optique. Chaque pays avait un télescope, en Allemagne, etc. Chacun pour soi. Puis ensuite, on s'est dit qu'il y a un deuxième hémisphère, hein, on regardait que l'hémisphère nord. Il y a un deuxième hémisphère où il y a énormément de choses à voir. Par exemple, la Voie lactée, le centre de la Voie lactée dans l'hémisphère sud. Puis il y a les nuages Magellan qui sont dans l'hémisphère sud. On s'est dit, il faut qu'on ait un télescope dans l'hémisphère sud. Donc on a regardé, au Chili, il y a des plateaux qui sont très, très secs, très propices aux observations. Et les Européens se sont mis d'accord pour, parce qu'en fait, chaque pays n'avait pas les moyens d'aller dans les hémisphères sud, construire des télescopes encore. Et donc, on s'est mis d'accord et on a lancé ESO, qui est European Southern Observatory. Donc, un ensemble où tous les Européens sont ensemble et construisent des télescopes. Et grâce à ça, on est devenu finalement meilleur que les États-Unis parce qu'on est en train de construire, par exemple, un 40 mètres. Un télescope optique de 40 mètres, qui s'appelle Extremely Large Telescope, c'est toujours un petit peu superlatif, mais enfin c'est l'état actuel. Les Américains essaient d'avoir un 30 mètres, mais n'y arrivent pas parce qu'à Hawaï, y a des problèmes en plus, ils n'ont pas l'argent. Chaque état des États-Unis n'est pas réuni en un seul. Et donc, nous, on a fait la réunion. En 1960, c'est déjà pas mal. Hein. Et donc, on est plus fort, on a des télescopes plus grands. On a aussi 4 télescopes de 8 mètres, le VLT, à l'ESO. Et on est vraiment compétitif. Et on a maintenant aussi, on participe avec le James Webb, par exemple, Hubble, on a Euclide, qui est européen, on les fait participer les Américains, donc on a beaucoup de collaborations. Et finalement, grâce à tous ces télescopes, on est au niveau.
Oui.
Donc on n'est pas, alors comme on était physicien de laboratoire, on attendait des crédits de l'État français, alors on aurait des gros problèmes, je pense. Mais là, on est dans une vague européenne et aussi mondiale. Par exemple, on est en train de construire le SKA, qui est le Square Kilometer Array, en radioastronomie, où c'est maintenant mondial. Maintenant, il n'y a plus de télescope américain-européen comme avant, en optique, mais maintenant, le SKA, il y a la Chine qui est dedans, il y a l'Inde, il y a le Canada, l'Europe, l'Australie, l'Afrique du Sud. C'est mondial, il n'y en aura pas deux. Et donc, on n'en fait qu'un. Et par exemple, il y a eu aussi ALMA, il y a 10 ans, en millimétrique, au Chili. Et là aussi, il y a les Américains, l'Europe, les Japonais. Donc maintenant, on a des télescopes mondiaux. Et lorsqu'on veut faire des observations sur ce télescope, on fait une proposition et on y va gratuitement. On a les observations qui nous arrivent gratuitement. Donc, on n'a pas de problème budgétaire. Et finalement, les Français s'en débrouillent bien.
Oui, et on ne peut plus se permettre de réfléchir à une échelle seulement nationale maintenant. C'est, comme
voilà.
Vous l'avez dit, sur l'échelle de l'Europe, ou alors on ne
voilà.
plus.
Voilà, c'est bien. Et quand même, il y a un petit avantage en astrophysique, c'est qu'on a encore des petites équipes. Parce qu'on pourrait dire, bon, c'est un peu comme la physicien des particules qui ont des grands accélérateurs. Mais il y a toujours évidemment, c'est des grosses manips, et à chaque fois, il y a peut-être des centaines d'auteurs dans une publication. Nous, on a des petites équipes, c'est quelque chose comme entre 5 et 10 auteurs, et donc on est encore dans des recherches, des structures de recherche qui sont familiales, en quelque sorte, et qu'on peut se retrouver.
En habit vert, rencontre avec une académicienne.
Alors, Françoise Combe, je ne vais pas vous rappeler le nom de médaille ou de distinction que vous avez eue. Si on peut citer quand même la médaille d'or du CNRS que vous avez eue en 2020. Vous avez ce CV impressionnant, vous n'avez jamais arrêté de travailler. Est-ce qu'une astrophysicienne de renom comme vous, est-ce qu'elle a le temps d'avoir une vie à côté des hobbies, des activités?
Oui, un petit peu, évidemment, je le regrette pas assez souvent. Mais en fait, l'astronomie est un hobby aussi, en quelque sorte. Donc quand on est pris par un puzzle, un problème, etc. C'est passionnant, on aimerait résoudre, même si on y passe le week-end, on a envie de le résoudre. Mais quand même, moi j'ai une vie familiale assez riche, j'ai eu 3 enfants, mon conjoint était quand même très collaborateur, donc j'ai eu de la chance, hein, parce qu'on partait faire des observations 3-4 fois par an, il fallait bien aussi quelqu'un qui s'en occupe. Donc là, j'ai eu de la chance, mais je pense que... maintenant, avec aussi 7 petits-enfants, on a de quoi faire. Je pense que j'ai toujours eu un hobby, la peinture.
L'impressionnisme,
c'est vrai. Et puis, un petit peu de tout, hein, de la musique. On a le temps quand même. Et puis surtout, quand on va faire un colloque avec les collègues, eh bien, on passe toujours le week-end à faire du tourisme, un peu dans tous les... Bon, cette année, en Afrique du Sud, au Cap, on avait la fameuse congrès qui a lieu tous les 3 ans, le congrès mondial de l'IAU, l'Union Astronomique Internationale. Et c'était la première fois que l'IAU avait lieu en Afrique. Et donc là, ça a été formidable. On a rencontré tous les collègues. Bon, il y a 2000 personnes dans ces genres de réunions. Donc, et on a visité, évidemment. À chaque fois, on visite énormément de pays, donc le tourisme, il n'y a pas de problème.
Et sur la peinture, vous peignez aussi, c'est ça? C'est de la peinture
à l'huile? Voilà, je peins à l'huile. Je peins à l'huile, mais récemment, j'en ai fait un peu moins, il faut bien le dire.
Et qu'est-ce qui est le plus beau à observer, les étoiles ou les toiles impressionnistes?
Ah, un petit peu les deux, hein. C'est deux choses complètement différentes. J'ai aussi fait des peintures de galaxies et d'étoiles, mais surtout plutôt des paysages ou des... Un petit peu comme les impressionnistes, j'imite un peu l'impressionnisme.
Quand on vous entend parler, tout semble fluide, on a l'impression de presque tout comprendre. Mais c'est un métier de vulgariser. Déjà, est-ce que vous êtes à l'aise avec le mot vulgarisation?
Oui, bien sûr, la vulgarisation, c'est partie de notre mission d'aller diffuser la science, parce qu'en fait, on l'a fait pour tout le monde. Hein. En fait, ce serait idiot que ce soit que les astrophysiciens qui en profitent. Il faut le faire... profiter au grand public, et ils sont là, ils demandent. On fait beaucoup de conférences au grand public, et puis j'enseigne au Collège de France, qui est aussi ouvert à tout le monde. Il y a des grands amphis, 400 places, et donc c'est libre, tout le monde peut y aller. Et en fait, c'est aussi en vidéo, hein, mais il y a beaucoup de monde qui est intéressé, qui pose des questions, etc. Donc c'est...
Et est-ce qu'on peut tout vulgariser en science?
Eh bien, si on fait l'effort, il faut faire l'effort, hein, mais je pense qu'on peut tout vulgariser, oui. Même si on met peut-être une équation ou deux, rien que pour montrer comment ça se formalise, mais en fait, on n'a pas besoin d'équations en général, et même on peut tout faire comprendre sans cela.
Aujourd'hui, vous enseignez toujours ?
Oui, je continue jusqu'à l'an prochain.
Jusqu'à l'an prochain, et voilà. L'an prochain, vous arrêterez,
là,
vous continuerez d'autres manières.
Ah oui, bien sûr, on continuera à être en émérite, parce qu'en fait, on a tellement d'instruments, on est en train de faire, on a beaucoup de propositions sur le James Webb télescope, par exemple, qui ont été acceptées, donc on va en profiter jusqu'au bout.
Depuis 2017, un lycée porte votre nom. C'est la cité scolaire de Montpellier, la ville donc où vous êtes née. Vous étiez bien sûr présente à cette inauguration. Qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir ce lycée?
Ah oui, puis c'était une très très grande surprise. Au début, lorsque j'ai reçu un mail comme ça du recteur, je croyais que c'était un spam. Mais quand j'ai vu je pensais que c'était peut-être sérieux, vu qu'il y avait une en-tête, etc. Mais c'est vrai que ce lycée, en fait, quand j'ai regardé, je le connaissais pas, quand j'ai regardé, j'ai vu que mon grand-père était allé, mon père était allé, mon arrière-grand-père aussi. Et en fait, j'étais jamais allée parce que c'est un lycée de garçons. Alors c'était très drôle parce que dans tous les voyages que nous avons fait avec mes parents, en fait, lorsqu'on était en Nouvelle-Calédonie ou en Algérie, etc., tous les lycées étaient mixtes. Parce qu'en fait, il y avait assez peu de Français dans les... Et puis, lorsqu'on est revenu une fois ou deux à Montpellier, mais j'étais dans un lycée de filles. Donc, il n'y avait qu'en France où les lycées n'étaient pas encore mixtes à l'époque. Donc, ce lycée, je n'ai jamais
Combes.
Vu. Mais il y avait beaucoup de combes qui m'avaient précédé auparavant. Ouais. Donc, c'était très émouvant de le voir, en fait, toutes ces classes. Donc, je suis passée justement voir un petit peu. Il y avait des sixièmes, il y avait terminales. Et ils avaient fait un tableau avec de la matière noire. Ils avaient fait toutes les animations. C'était très, très intéressant.
Et en 2025, vous serez la présidente de l'Académie des sciences pour une année. Est-ce que vous entamez cette année avec des objectifs particuliers que vous souhaitez porter, des projets qui vous tiendraient à cœur?
Oui, alors ça fait 2 ans que je suis vice-présidente déjà, et là, ça a été vraiment beaucoup d'activités, beaucoup de projets qu'on a menés. Donc il y en a qui sont à peine commencés. Donc ma première priorité déjà, c'est de les faire développer et qu'ils aient une vie, en fait, ces projets, parce que ils n'auront d'impact que sur la durée, en fait. Hein. Donc on a énormément avec Alain Fischer, le président actuel, les secrétaires perpétuels et aussi les délégués à l'enseignement, à la vie internationale de l'Académie, tout ça. On a énormément commencé des projets. Donc, je vais d'abord commencer à les développer. Ensuite, il y en aura beaucoup d'autres pour les conférences, la diffusion des connaissances, tout ça. On le fait déjà beaucoup. Ça a beaucoup progressé et là, on nous le dit, hein, le grand public qui vient, il est très content que l'Académie soit très active. Donc là, on va continuer à faire tous ces efforts de conférences.
Oui, toutes les semaines, il se passe quelque chose à l'Académie des sciences, il y a toujours des conférences.
Hein, oui. Là, il y a la grande salle des séances, on a fait hier, ou avant-hier plutôt, le 5 à 7, en fait, c'est-à-dire un petit académicien qui présente ses nouvelles. Ça, la salle était pleine, donc vraiment tout ça, on va continuer et on va sans doute en faire de nouvelles, il n'y a pas de problème.
Merci beaucoup Françoise Combes. Pour finir, on propose toujours à nos académiciens de répondre à un petit quiz. Alors, il faut répondre du tac au tac. Est-ce que vous êtes prête?
Allons-y.
Alors, où se trouve le plus beau ciel que vous ayez observé la nuit?
Alors ça se trouve au Chili. Hein. Au Chili, donc dans les grands plateaux d'Atacama, etc. Là, on est vraiment... Alors, Alma, il est à 5500 mètres d'altitude. Et vraiment, on a un ciel, on voit la Voie lactée, les nuages de Magellan, ce qu'on ne voit pas dans l'hémisphère nord. C'est pur, il n'y a pas de lumière parasite, il y a vraiment... on est dans l'immersion du ciel.
Votre constellation préférée?
Alors, plutôt celle d'Andromède.
Un paysage que vous trouvez particulièrement beau, pas forcément dans le ciel, mais sur la planète?
Alors, paysage sur la planète, oui. Ben, en Nouvelle-Calédonie, on avait beaucoup de cocotiers, des plages, cocotiers. Ça, c'était formidable. On avait la mer chaude et la plage. Bon, c'est peut-être standard, mais c'est inoubliable.
Votre plus grand regret professionnel?
Chaque matin, je regarde un peu. Il y a énormément d'articles, il y a énormément d'astronomes dans le monde. Et à chaque fois, je me dis, ah, ça alors, j'aurais pu le faire. Mais on n'a pas le temps de tout faire de toute façon. Mais c'est vrai que très souvent, on a beaucoup. Alors, je n'ai pas quelque chose de précis, mais très souvent, il y a des découvertes qui paraissent fantastiques et qu'on aurait pu faire.
Ouais. Et votre plus grande fierté?
Alors c'est peut-être justement d'avoir découvert des choses, comme par exemple les bulbes de galaxies, ou bien d'avoir découvert les premières absorptions moléculaires à grande distance avec des télescopes millimétriques.
Et pour finir, la musique ou la chanson que vous avez en tête en ce moment ?
Il y a deux choses. Hein. J'aime bien la musique classique, hein, aussi, Adagio, alors, vraiment, ou même du Vivaldi qui est plus entraînant. Et puis sinon, ben, j'aime bien Céline Dion et, et Jean-Jacques Goldman.
C'est parfait. Merci beaucoup, Françoise Combes.
Merci.
Les podcasts de l'Institut de France.